Magnificent Seven, action des GAFAM, l'IA, l'intelligence artificielle, est-elle une menace à terme, une menace systémique ou non? Alors que les investissements en intelligence artificielle, les fameux CAPEX IA, dépassent largement le chiffre d'affaires IA. Alors que les CAPEX IA créent aussi des OPEX IA, c'est-à-dire des charges courantes d'entretien, d'électricité, de serveur, etc. Alors, chers amis, regardez le tableau qui s'affiche sous vos yeux. Émission spéciale IA. On entend tout, j'ai tout lu. L'IA est un risque, les investissements sont colossaux, il n'y a pas de chiffre d'affaires, tout ça est du ponzi, tout va s'effondrer. Moi, j'ai repris toutes les datas. Nous allons reprendre le cas particulier c'est simple, des 7 actions des Magnificent Seven. Et vous allez voir que non, il n'y a pas de menace systémique. Ce sont des machines à cash. Oui, les investissements IA sont colossaux, mais vous allez voir que certains font déjà un chiffre d'affaires IA pas si petit que ça. D'autre part, tout est financé par les profits. Alors, chiffre d'affaires, résultat opérationnel, résultat net, CAPEX IA, investissement massif dans l'IA, free cash flow, c'est ce qui reste à la fin. Partout, les free cash flow sont positifs. Bon, les amis. On va faire dans cette vidéo beaucoup de choses. On va faire un peu de comptabilité. Non, rassurez-vous, c'est intéressant. Ça va vous permettre vraiment de comprendre en quoi ces investissements IA sont-ils excessifs ou pas excessifs. Et puis finalement, parmi ces Magnificent Seven, il y a des opportunités. Certaines sont décotées par rapport à d'autres. Pure player IA, pas pure player IA. Risque de cannibalisation du chiffre d'affaires. Tenez, par exemple, Google, Alphabet Google. Si l'IA expose que tout le monde utilise l'IA et que plus personne passe par le moteur de recherche Google, c'est se tirer une balle dans le pied. Où se situe ce risque de cannibalisation? Est-il réel? Et ça dépend encore des Magnificent Seven. Donc là, je reprends tout. Je vais aussi vous parler du secteur des logiciels. Faut-il revenir à l'achat sur l'action Adobe? Et de manière générale, sur le secteur des logiciels. Bon. Microsoft est-elle une opportunité? Microsoft qui revient proche d'un support qui est moins cher que les autres, qui a un lien très fort, en tout cas beaucoup plus que les autres, avec ChatGPT. Bon, qui a une situation de monopole, c'est 80% de part de marché. Bon, donc émission spéciale IA, je vous donne le plan. C'est une vidéo qui va être chargée, notamment en certains concepts. Je vais essayer de bien tout expliquer. Qu'on comprenne en fait, non, parce que si vous voulez, il suffit pas de dire les investissements dans l'IA sont massifs et le chiffre d'affaires IA est tout petit. Ça suffit pas à ça pour condamner un secteur, pour condamner une action, pour qualifier un risque de systémique. Vous allez voir qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors, bien sûr, les Magnificent Seven, les actions des GAFAM, Apple, Google, Facebook, etc., Nvidia, Tesla, ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, nous allons regarder les cas particuliers. On va aussi passer en revue leur graphique. Enfin, on fait plein de choses. Donc, c'est parti, je vous donne le plan. Première partie, investissement IA, les CAPEX explosent. Oui. Les investissements IA passent dans la catégorie des CAPEX. Ce sont les investissements en capital après le résultat net. Vous avez financé vos charges opérationnelles, vos salaires, etc. Mettez-vous à la place d'un patron de GAFAM. Oui, les CAPEX explosent. Donc déjà, on resitue ces fameux investissements IA. Où se situent-ils dans le bilan comptable? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que ça menace le chiffre d'affaires? Est-ce que ça menace les profits? Est-ce que ça menace ce qui reste à la fin, ce qu'on appelle le free cash flow? Ça menace quoi? Oui, mais il faut poser les choses. Si vous ne savez pas dans la chaîne comptable, la chaîne des états financiers, situer les investissements IA, vous ne connaissez pas le sujet. Donc on commence par ça. Nous allons commencer par ça. Ensuite, deuxième partie, les trois facettes du risque IA. Parce que oui, bien sûr qu'il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Donc il y a trois facettes selon moi. Alors il y en a d'autres. Mais j'estime que ce sont les trois plus importantes. Et je vais donc vous les décrire. Troisième partie. Et là, le tableau que je vous affichais tout à l'heure en introduction, on le reprend en détail. Je regarde le cas particulier des 7 actions des Magnificent Seven. Lesquelles sont vraiment menacées, lesquelles le sont moyennement, lesquelles ne le sont pas du tout. Où en sont-elles toutes en termes d'investissement IA, CAPEX IA? Où en sont-elles toutes en termes de chiffre d'affaires IA? Et puis il y a aussi le chiffre d'affaires non IA, global. Amazon. Pensez que les Américains qui font leurs courses dans les magasins Amazon, que l'IA cannibalise quelque chose? Rien du tout, ça change rien. Mais Tesla n'est pas Amazon. Microsoft n'est pas Amazon. Google n'est pas Amazon. Bon. C'est pour ça, il ne faut pas généraliser. Donc là, on prendra tout en détail. Quatrième partie, Faut-il revenir à l'achat sur le secteur des logiciels qui, lui, a subi l'arbitrage défavorable, favorable à l'IA, défavorable au logiciel? Vous avez des boîtes comme l'américain Adobe, moins 60% en quelques mois, qui est à nouveau extrêmement pas cher. Je prends le top 10 des actions du secteur des logiciels aux États-Unis, voir si ça devient intéressant. Est-ce que les capitaux vont revenir vers les logiciels en défaveur de l'IA? Bon, est-ce qu'Adobe va pouvoir surfer sur la vague IA pour justement se rebooster, sachant qu'Adobe, c'est encore une machine à cash et qui est maintenant vraiment pas chère en termes de PE. Et d'un point de vue technique, il y a un support qui est pas loin. On est revenu au niveau de prix de la crise sanitaire de 2020, le choc boursier de mars 2020. Bon. Donc voilà, et ensuite, dernière partie, on fera un gros point technique S&P 500. Du coup, les actions des Mag 7 et l'indice sectoriel de la tech, émission spéciale, IA, risque systémique ou pas.
Cette émission vous est présentée par Swissquote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Mes chers amis, l'IA, les investissements massifs en IA, les CAPEX en IA, sont-ils une menace à terme pour les actions des GAFAM en bourse? Sont-ils vraiment si chers que ça par rapport à leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices? Est-ce qu'après les investissements, il reste de l'argent? Où est le risque de cannibalisation? On va passer en vue plein de concepts. Normalement, après cette vidéo, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Vous allez comprendre véritablement l'enjeu et vous allez pouvoir nuancer tous les articles qui disent que les investissements en IA, c'est de l'argent perdu, que derrière, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien. Vous allez voir, d'autre part, les Magnificent Seven ne sont pas tous logés à la même enseigne. C'est parti. Il y a une menace pour les actions de la tech US. Le plan, je vous l'ai donné, donc on ne perd pas de temps. C'est parti. Investissement massif dans l'IA, les CAPEX explosent. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les investissements dans l'IA sont massifs. Vous allez voir le tableau, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Ce n'est pas 1 ou 2 milliards, hein, ça peut être 50, 60, 80, 100 milliards. Pour des boîtes qui parfois font un chiffre d'affaires de 400, 500, 600, effectivement, bon, c'est gigantesque. Vous allez voir que rien n'est financé par la dette. Mais déjà, il faut comprendre les choses. En bourse, tout n'est que comptable, état financier. Une action va monter parce qu'elle a des bons fondamentaux, qu'elle n'est pas chère. Elle va cesser de monter même si elle a des bons fondamentaux parce qu'elle est trop valorisée. Y a-t-il un risque? Y a-t-il un risque pour les actions des GAFAM? La question est de savoir est-ce que ces investissements massifs dans l'IA menacent la trésorerie des boîtes? Est-ce que derrière, elles n'auront plus d'argent? Vont-elles devoir faire de la dette? Y a-t-il vraiment du chiffre d'affaires? Est-ce que ça plombe leurs profits? Bon. Où est-ce que c'est? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Parce que d'un point de vue comptable, où est-ce que vous situez les investissements en IA? Je vous la fais courte. Une boîte fait un chiffre d'affaires. De son chiffre d'affaires, elle va payer les charges opérationnelles, les charges courantes. Retenez les salaires essentiellement, mais pas que. De là va ressortir le résultat opérationnel. Bon, vous avez encore quelques déductions, les impôts, le financement des besoins en fonds de roulement, et à la fin, vous obtenez le résultat net, le profit. Attention, le résultat net n'arrive pas après les investissements en IA. J'insiste, le résultat net n'est pas ce qui reste à ces entreprises après leur investissement massif dans l'IA. Vous avez le résultat net et c'est après qu'arrivent les investissements en capital. Les investissements dans l'intelligence artificielle arrivent après le résultat net. C'est ce qu'on appelle les CAPEX, les investissements en capital. Il n'y a pas que l'IA, mais l'IA entre dedans. Et c'est maintenant, c'est la partie la principale. De ce résultat net, vous allez retirer les CAPEX. Je simplifie, hein. Et à la fin, vous arrivez à ce qu'on appelle le free cash flow. C'est à la fin vraiment l'argent qui reste après avoir pu payer les salaires, l'investissement, tout, tout, tout. Le free cash flow. Déjà, première chose, bonne nouvelle. Aucun Magnificent Seven n'arrive en free cash flow négatif après avoir financé l'IA. Aucun. Et il reste énormément d'argent. Donc déjà, est-ce qu'actuellement c'est un risque systémique par rapport à ça? Est-ce que derrière, la boîte perd de la trésorerie? Non. Chaque année, ces Magnificent Seven sont tellement des machines à cash qu'il reste de l'argent. Alors, bien sûr, l'argent aurait pu aller ailleurs que l'IA. Parce que si derrière tous ces investissements, vous investissez 100 milliards, vous n'avez que 10 milliards de chiffre d'affaires, un problème. Ça, c'est un sujet, on va en parler. Donc déjà, première chose, où se situent ces investissements en IA? Donc, Vous partez du chiffre d'affaires, vous retirez toutes les charges opérationnelles, on parle d'OPEX. Retenez ça parce que ça va revenir dans la présentation. Vous allez voir, tout va vous paraître limpide. Les OPEX, les charges opérationnelles. Les CAPEX, les investissements en capital. Vous partez du chiffre d'affaires, vous retirez les OPEX, vous obtenez le résultat net. Alors ensuite, vous avez les opérations d'ajustement du besoin en fonds de roulement, etc., etc. Ça, c'est vraiment des choses comptables entre les flux réels et les flux... typiquement, vous avez une facture, vous avez envoyé à votre client, mais vous n'avez pas encore été payé. La gestion du BFR, ajustement comptable. Oubliez ça. Vous obtenez donc votre résultat net. Après les résultats nets, vous avez les dépenses en capital ou CAPEX. C'est ici qu'arrivent les investissements dans l'IA. Et à la fin, après avoir tout payé, vous avez ce qu'on appelle le free cash flow, ce qui reste vraiment. Et effectivement, vous allez voir que les CAPEX réduisent énormément le résultat net pour arriver au free cash flow. Mais toutes les boîtes, tous les Magnificent Seven ont encore un free cash flow positif après les CAPEX en IA. Donc déjà là, il n'y a pas d'excès. Mais vous allez voir que c'est quand même massif. Donc retenez ça. D'autre part, n'oubliez pas une chose. Lorsque vous avez investi dans l'IA, dans les data centers, etc., derrière, il y a des coûts d'entretien, des coûts d'électricité. En plus, ça passe dans les OPEX. Mais j'ai regardé les datas, c'est largement sous contrôle. Oui, vous créez plein de data centers, oui, ça augmente votre charge d'électricité, l'entretien, il faut payer les hommes, etc. Mais par rapport à leur chiffre d'affaires, oui, c'est des salaires en plus, c'est des OPEX en plus, mais les OPEX IA sont largement sous contrôle. Alors, je l'ai quand même listé dans les risques, mais... Voilà. Donc là, les données sont posées, le langage est posé, c'est clair pour tout le monde, on avance dans la présentation. Le risque IA, selon moi, il y a trois branches pour le risque IA. Le risque sur le chiffre d'affaires, le risque sur la rentabilité nette et le risque donc sur le free cash flow. Ça, c'est les risques théoriques. Ensuite, on prend un par un les Magnificent Seven, voir s'il y a un risque réel. Pourquoi un risque sur le chiffre d'affaires ? C'est assez logique. Tout ce que vous investissez dans l'IA va vous créer du chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle. Le risque pour certaines de ces entreprises, c'est que ce nouveau chiffre d'affaires ne soit qu'un remplacement de l'ancien chiffre d'affaires. Risque de cannibalisation. Ah oui, vous avez du chiffre d'affaires IA, mais si en fait ça vient baisser l'ancien chiffre d'affaires parce que ça marche sur les mêmes plates-bandes, où est l'intérêt ? Aucun. Deuxième risque, le poids massif des CAPEX IA. Oui, rappelez-vous, nous venons de le voir, vous partez des profits, des résultats nets, ensuite arrivent les CAPEX, les investissements en capital, dont les investissements dans l'intelligence artificielle, et si ces CAPEX sont monstrueux, hors de contrôle, et qu'à la fin vous avez un free cash flow négatif, année après année, ça peut finir par poser des problèmes. La trésorerie s'érode, et là, l'analyste financier lambda, il reprend tous les états financiers de l'entreprise, free cash flow négatif, boîte trop valorisée, trop chère par rapport à ça, boum, on vend le titre, et là, risque de chute, forcément. Vous allez voir que pour le moment, tous les free cash flow restent positifs. Et troisième risque, mais qui est pour moi moins important, le risque OPEX IA. C'est-à-dire que vous avez investi dans plein de data centers. Donc ça, c'est l'investissement, c'est le coût en one shot, dans les CAPEX de l'année. Mais ensuite, année après année, ces data centers, ça, c'est de l'électricité en plus, il faut payer les techniciens pour les entretenir. Et ça, ça reste année après année. Ce sont les OPEX IA. Mais les OPEX IA, par exemple les salaires des techniciens pour entretenir les nouveaux data centers, en fait, ça reste largement sous contrôle, tellement le chiffre d'affaires hors IA est massif. Là, je parle des Magnificent Seven, hein. Des boîtes plus petites, c'est différent. Là, je me suis concentré sur les Mag 7. Est-ce que les investissements dans l'IA, est-ce que les CAPEX IA sont un risque systémique pour les Mag 7 ? Vous allez voir qu'à la fin, la réponse est non, sauf pour deux où il y a un risque un peu plus important. Donc, vous avez bien retenu ça. Risque de cannibalisation du chiffre d'affaires, risque de CAPEX IA hors de contrôle qui réduisent le free cash flow à zéro et risque sur les OPEX IA. Électricité, refroidissement, maintenance, ingénieur sécurité, etc. Là, c'est la théorie, c'est effectivement, on peut poser le problème comme ça. Maintenant, quelle est la réalité des choses ? Donc là, je reviens donc sur ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure en introduction. Alors, il y aura aussi une partie analyse technique puisque j'ai repris le graphique de chacun des maxets. Donc là, ce tableau, vous pouvez faire une capture d'écran et vous avez donné votre prix, etc. Bon. Alors, on les reprend tous. Donc, les Magnificent Seven, Microsoft, Amazon, Google. Vous dites Alphabet, vous, moi je dis Google. Apple, Meta. Alors, on dit plus Facebook, on dit Meta. Nvidia et Tesla. Ok. Vert, pas de risque. Rouge, point d'attention. Prenons le cas, par exemple, de Microsoft. Microsoft fait un chiffre d'affaires de 280 milliards. Résultat net, 101 milliards. Investissement dans l'IA, 30 à 40 milliards. Donc, le résultat net, investissement dans l'IA, 30 à 40 milliards. Il reste largement du free cash flow. Quel est le chiffre d'affaires direct dans l'IA? Donc là, vous avez investissement IA, chiffre d'affaires dans l'IA. Si vous ajoutez les activités liées au cloud, et au service direct IA, c'est 75 milliards plus 15 milliards. Donc pour Microsoft, vous avez un chiffre d'affaires IA qui est supérieur aux investissements IA. Alors, le pur IA, non. Le pur IA, c'est 15 milliards par rapport à 40 milliards d'investissements. Mais avec le cloud, et le cloud, bien sûr, fait partie des investissements IA, eh bien Microsoft est déjà impeccable, est déjà dans le vert. Le risque de cannibalisation du chiffre d'affaires est assez moyen. D'autre part, Microsoft a maintenant un PE ratio de 24. C'est vraiment, c'est pour moi Microsoft, si vous voulez, en plus il y a une partie logicielle qui est énorme et le secteur des logiciels a un peu souffert. Moi, je pense que parmi les GAFAM, parmi les Mag 7, Microsoft a un potentiel de rattrapage. De par le fait qu'elle gère déjà un chiffre d'affaires IA supérieur à ses investissements IA. D'autre part, regardez. Ah, malgré les investissements dans l'IA, malgré les CapEx IA, il y a encore 70 milliards de free cash flow. C'est énorme. Il n'y a aucun risque systémique pour Microsoft. Zéro. Zéro. Pour Amazon, c'est encore, c'est inexistant, le risque. 700 milliards de chiffre d'affaires. 77 milliards de résultats nets. Alors, investissement IA, c'est oui, c'est gigantesque. Là, on parle de plus de 100 milliards dans l'investissement IA. Mais le risque, y a-t-il vraiment un risque de marge IA? Ici, c'est la colonne risque de cannibalisation, bah, Amazon. En quoi l'IA va faire que les Américains ne vont pas aller faire leurs courses sur Amazon? En quoi? En quoi cela menace le business retail? Le business retail, faire ses courses. Bon, rien. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque de cannibalisation. Alors, il peut effectivement y avoir un risque, comment dire, à terme, il peut y avoir un risque de CapEx IA. Malgré tous ces investissements massifs, le free cash flow reste positif. Mais il est vrai que si vous prenez Amazon, alors Amazon, vous avez 128 milliards de chiffre d'affaires sur le cloud. 15 milliards sur l'IA pure. Donc effectivement, 15 milliards sur l'IA pure, ça peut paraître léger par rapport à 118 milliards, mais encore une fois, n'oubliez pas toujours de rassembler les activités IA et cloud. Et lorsque vous faites l'addition des activités cloud plus IA, le chiffre d'affaires global est même supérieur à l'investissement. Donc là aussi, c'est globalement dans les clous. Ensuite, prenons Google. Google, effectivement, ça peut paraître un peu plus compliqué. En fait, si vous voulez des 7 Magnificent Seven, Google, c'est là où il y a un risque systémique. Ça peut paraître, ça vous paraît assez, c'est très clair. Je suis persuadé que parmi vous, certains ne passent quasiment plus par Google pour faire des recherches, mais uniquement par des agents IA, pure IA. Typiquement, je sais pas, vous allez passer par Perplexity, vous allez passer par ChatGPT, vous allez passer par Gemini. Bon, je sais pas lequel vous utilisez. Moi, à titre personnel, j'utilise largement Google. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Google ne souffre d'aucun risque de cannibalisation. Mais si ces agents conversationnels IA continuent de se développer, on ne sait pas, il peut y avoir un moment ou un autre, un déclic, un point de non-retour, un changement dans les usages sociaux. Et tout d'un coup, Google, il y aurait un drop dans son utilisation. Ça, pour moi, c'est, si vous voulez, Google, c'est la plus menacée. Vraiment, le risque de cannibalisation du chiffre d'affaires, c'est là où c'est le plus menacé. Alors après, donc là aussi les investissements sont colossaux. On parle de 90 milliards sur les derniers chiffres connus. Bon, faut bien voir que, regardez la colonne Free Cash Flow, les 7 Magnificent 7, ce sont les derniers résultats connus, soit l'année complète, soit annualisée, mais on n'a pas encore tous les chiffres. Malgré, certains n'ont pas encore publié le résultat du Q4, malgré les investissements IA, les free cash flow sont positifs partout. Donc déjà, aucun MagSet ne va dans la zone rouge. Là, on pourrait se poser la question, ils abusent. Mais là, malgré les capex IA massifs, ils sont tous en free cash flow positif. Alors l'argent aurait pu aller ailleurs, mais en tout cas, pour l'instant, tout est financé par... Donc ça, déjà, ça réduit le risque. Mais effectivement, pour Google, on peut se poser la question. Alors attention, regardez le chiffre d'affaires de Google en IA. 70 milliards en cloud, 12 milliards en IA pure. On n'est pas si loin des investissements. Vous voyez, même l'argumentaire de ceux qui disent « Les investissements en IA sont massifs, c'est 20 fois le chiffre d'affaires IA. » C'est faux. Alors, c'est peut-être vrai pour ça, pour des boîtes plus petites, mais pour les Magnificent Seven, on peut dire qu'actuellement, le CAIA est à peu près égal à l'investissement IA, ou un peu en dessous. Et vous voyez qu'il n'y a pas un décalage incroyable. Alors Apple, le risque est très faible, parce que c'est pas un pur player, c'est pas un peu player IA. Il y a très peu de monétisation directe. Les investissements dans l'IA sont très réduits. On a 3 à 5 milliards d'investissements dans l'IA. Apple, c'est une machine à cash. Ce n'est pas lié à l'IA. Des free cash flow, pas loin des 100 milliards. Bon. Apple n'est pas en danger. Meta, pareil, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de chiffre d'affaires direct lié à l'IA. Par contre, bien sûr, l'IA publicitaire, ça vient booster l'existant. Mais on ne peut pas distinguer le chiffre d'affaires IA du chiffre d'affaires non IA. Il y a 70 milliards de capex IA. Malgré les investissements colossaux de Meta dans l'IA, il y a toujours du free cash flow positif. Là, ça vient directement booster le chiffre d'affaires. D'ailleurs, en termes de PE ratio, notez, hein, Microsoft et Meta ont du potentiel de rattrapage par rapport aux autres MagSets. Ont du potentiel de rattrapage pour une quasi-absence de risque systémique. Nvidia, il n'y a aucun risque systémique, puisque c'est de l'hardware, 100% de l'hardware, 100% lié à l'IA. Tous les investissements, sont dans les matériels liés à l'IA, pour faire fonctionner l'IA, les puces, etc. Là, il n'y a pas de capex spécifique IA, et après tous ces capex, Nvidia fait encore 60 milliards de free cash flow. C'est pour ça que c'est la plus chère. C'est une des plus belles tendances. C'est-à-dire, Apple et Nvidia sont tout en haut parce qu'il n'y a pas de risque systémique. Alors, Tesla, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce PE incroyable? Tesla, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Tesla, elle se paye aussi cher. Alors déjà, Tesla, c'est plus petit. Ils investissent moins dans l'IA. Mais derrière, voilà, le potentiel des robotaxis, l'IA autonome, tout ça. On se projette sur 5, 10, 15, 20 ans, le marché paye ça. Le marché paye l'explosion du chiffre d'affaires IA, l'explosion de toute cette IA qui va aller dans les voitures, les robots taxis, tout ce que propose Tesla. Elle se paye aussi cher parce que le marché se projette sur une multiplication par 5, par 6, par 7 du chiffre d'affaires actuel. Bien sûr, c'est l'empire Elon Musk, c'est plein de choses. Il y a une prime qui est liée à tout ça, prime de l'innovation, prime du futur. Bien sûr, c'est très excessif. Pour Tesla, il n'y a pas un risque par rapport au capex IA. Il y a plus un risque de valorisation. Ah, là, il faut justifier une telle valorisation. Autant Nvidia, on comprend, autant voilà. Donc, vous voyez qu'au final, si vous reprenez toutes les datas, que ce soit le risque chiffre d'affaires IA, le risque capex IA, le risque free cash flow, ou le risque cannibalisation du chiffre d'affaires, ou même le risque valorisation. C'est pas évident là de voir du risque systémique. Alors Tesla, si bien sûr tout ce que t'en propres dans Tesla est un échec à horizon 5-10 ans, oui, ça va dropper. Et vraiment là où il y a un risque de cannibalisation d'activité, c'est Google. Mais même Google et Tesla, elles ne sont pas dans le rouge d'un point de vue comptable, d'un point de vue de ses investissements. Donc, vous voyez, tout de suite, on se dit que les choses restent sous contrôle. Et quand on dit que les valeurs de la tech sont chères, vous prenez le PE ratio, oui, ce sont des PE élevés, mais qui s'appuient sur des chiffres d'affaires incroyables, qui s'appuient sur des résultats nets incroyables, qui s'appuient sur du free cash flow et machine à cash. C'est plus important que le PIB de nombreux pays, tout ce que ces boîtes arrivent à générer à la fin de l'année, malgré les capex IA massifs. Bon. Moi, je vous dis, zioter Microsoft et Meta, et notamment Microsoft, pour un potentiel de rattrapage. D'un point de vue technique, elles sont toutes haussières. Alors bien sûr, il peut y avoir des corrections à court terme. Là, je vous ai donné la situation technique moyen-long terme. Microsoft haussière tant qu'elle est au-dessus du support à 350$. Amazon haussière tant qu'elle est au-dessus du support à 190$. Alors attention, Google, c'est vraiment surachat massif. Pour moi, Google, c'est là où il y a quand même un risque de retracement. Elle est chère. Surachat massif, c'est là où on peut identifier un risque systémique de cannibalisation du chiffre d'affaires IA sur l'ancien chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires non IA. Donc voilà. Apple aussi au-dessus de 250$, Meta aussi au-dessus de 580, Nvidia aussi au-dessus de 150 et Tesla aussi au-dessus de 380$. Bon. Donc déjà là, je sais pas que ça vous permet de reposer les choses. Donc finalement, l'IA est un risque systémique si elle remplace en usage le chiffre d'affaires non IA. On voit que c'est une réalité essentiellement pour Google, un peu pour Microsoft, et pour les autres, c'est marginal. L'impact sur les OPEX sera marginal par rapport au montant de chiffre d'affaires réalisé. Et en termes de free cash flow, oui, ça diminue les free cash flow, mais il reste encore maintenant partout positif. Ça montre à quel point ce sont des machines à cash. Et c'est pour ça que dès qu'elles corrigent de 10-15%, le marché les achète. Dès que vous avez des Mag 7, le secteur de la tech qui fait des retracements de 15-20%, le marché va acheter. Alors maintenant, on va parler du secteur des logiciels. Faut-il revenir à l'achat sur l'action Adobe? Alors déjà, pourquoi se poser la question sur l'action Adobe? Pourquoi se poser la question sur l'action Adobe? Pour ça. Voilà. Moins 60%. Ah, c'est quand même marrant, on est dans la tech US. Moins 60% sur l'action Adobe. Pourquoi? C'est un pur player logiciel. C'est pas un player IA, c'est un pur player logiciel. L'IA nuit au pur player logiciel, sauf que là, Adobe commence à avoir trouvé le filon pour utiliser l'IA pour rebooster son activité. La valeur a perdu 60%. Là, regardez, c'était le choc boursier de la crise sanitaire. On revient sur des niveaux de support de la crise sanitaire. Pour moi, entre 200$ et 250$, ça pourrait rentrer en DCA. En momentum, le LMACD, le RSI, on vient vraiment sur des zones basses de 10, 15, 20 ans. De 10, 15, 20 ans, donc déjà, d'un point de vue technique, il y a cet élément-là. Je pense que les logiciels ont trop souffert parce que les capitaux sont allés vers l'IA. Et là, je vous mets le classement, le top 10 des stars, des acteurs des logiciels aux États-Unis en termes de PE ratio. Adobe est tombée à 16, elle est tout en bas. Elle est tout en bas, même Microsoft est à 25. Microsoft, donc déjà, uniquement en comparant, uniquement en restant dans le cadre du secteur des logiciels, Adobe est nettement moins cher que Microsoft. Simplement revenir s'aligner ou se rapprocher de Microsoft, ça peut présenter une opportunité de rebond. Moins 60%. Et Adobe, attention, moins 60% en bourse, c'est une machine à cash, hein, pareil. Du chiffre d'affaires, du résultat net, du free cash flow. Je dis pas qu'il faut y aller maintenant. Il faut d'abord que ça stabilise, que ça construise une base d'accumulation. Mais la zone là des 200$, il va falloir commencer à la surveiller. Ça me rappelle aussi le tableau que je vous ai montré un instant avant, où je vous ai montré que Microsoft était moins cher que les autres Mac 7. Et je pense que là aussi, dès que Microsoft, il y a un potentiel de rattrapage. Alors que Apple, par contre, je pense qu'Apple, à un moment ou à un autre, ça va se manger une correction, parce que c'est vraiment aller trop haut. C'est en surachat massif. Elle est chère. Bon. Voilà. Donc, mettez sur haute surveillance l'action Adobe. Il peut y avoir donc quelque chose à faire. L'idée d'abord, bon, faut pas se précipiter sur Adobe, hein, mais déjà, voilà, voir si le marché va être capable de se stabiliser par ici, qui est vraiment une zone de points bas. Et si voilà, ça commence à stabiliser, là, les premières divergences arrivent, et là, donc, je commence, je vous dis, je commence à la mettre sous très haute surveillance. Cette action Adobe. Donc voilà, donc là maintenant c'est le forward PE, donc le forward PE, donc là on voit que c'est encore plus intéressant en termes, donc pas le PE TTM, mais le prix par rapport aux bénéfices futurs. Ça montre que Adobe a encore une machine à cash. Le forward PE est tombé à 12 sur Adobe. Là, on est dans les pure players logiciels. C'est, je me dis là quand même, bon, il peut y avoir un truc intéressant à faire. Alors, analyse technique du S&P 500 du secteur de la tech avec des Mag 7. Donc, je refais le tour d'horizon habituel. Donc, première chose, le secteur de la tech, tendance haussière bien construite. Le RSI même est revenu à 50. Ça, c'est, en gros, les Mag 7 créent la tendance de cet indice sectoriel. Donc là, on fait une espèce de consolidation latérale, mais je veux dire, tant qu'on est au-dessus des 4800 points, au-dessus du QMO Weekly, c'est bullish. Là, vous voyez, vous avez le cours de clôture qui est la lagging span. Vous voyez bien que c'est une espèce de consolidation à plat. Le marché peut faire ça, puis tôt ou tard, la tendance peut se relancer. De manière générale, même si on revient ici, c'est si on passait en dessous de ça. Si on cassait le QMO et le support des 4800, il y aurait un risque. Mais au-dessus de ça, c'est bullish. Et les corrections par ici, ça s'achète sur le secteur de la tech. Qui d'ailleurs semble là vouloir réagir positivement sur sa moyenne mobile à 200 jours. Pour ce qui est de l'indice S&P 500, je fais le perroquet depuis des mois parce que rien ne change, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait passer sur des choses plus intéressantes. Mais voilà, le QMO Weekly, le QMO Daily, au-dessus bullish, on casse correction, au-dessus bullish, on casse correction, c'était la chute de la carte commerciale, au-dessus bullish, regardez, on a rebondi dessus. Tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. On casse. Si jamais ça casse, on revient à 6500 points. Et là, ça va stabiliser sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, là, ça peut latéraliser comme ça un certain temps et la moyenne mobile remonter. Ou au contraire, on peut y revenir et repartir. Je crois de moins en moins, sauf choc exceptionnel, mauvaise nouvelle géopolitique ou des mauvais résultats, hein, au retour à 6200 points. Là, ça reste possible. Ce n'est que 10% de correction. Mais pour revenir là, il faudrait un événement de type les tarifs douaniers, des choses comme ça, la géopolitique, il y a plein de facteurs. La Fed, l'inflation, l'emploi, bon. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, le marché semble soit dans l'hypothèse de se faire cette dérive latérale ou de revenir retester ce niveau. Mais là, si le S&P 500 vient retester la moyenne mobile à 200 jours, c'est l'opportunité pour acheter des valeurs des Mag 7. Donc voilà, donc pour l'aspect technique des Magnificent 7, je vous ai donné les supports. Je vous ai donné les supports tout à l'heure, et je suis en fait allé tous les supports que je vous ai donnés tout à l'heure sur les Mag 7 dans le tableau. Ce sont les supports au-dessus duquel la tendance de fond reste haussière. Je suis allé les chercher en utilisant donc les graphiques de moyen long terme, les graphiques donc en données mensuelles et en données hebdomadaires. Donc je vais vous remettre ce tableau que j'ai mis quelque part, où est-ce que j'ai mis le tableau, je l'ai donné tout à l'heure, et hop, je vais le faire réapparaître. Donc Microsoft, haussier au-dessus du support à 350$, Amazon aussi au-dessus du support à 190$. Alors Google, attention effectivement, attention au surachat massif pour Google, Alphabet, Google, voilà. Là vraiment, Google, attention, c'est haussier, mais attendez, tôt ou tard, on va revenir à la Kijun. Tôt ou tard, on va revenir à la Kijun. Regardez, l'écart à la moyenne mobile à 200 jours. Là, par rapport à son surachat, attention, attention à Google. C'est celle qui peut, mais si elle revient ici, ça s'achète. Mais il y a vraiment un écart au support important. C'est le contraire de Microsoft. Microsoft, elle, pour moi, là, cette zone des 350$, 380, ça, c'est une zone qui se paye. Et notamment les 350$. Le RSI est revenu tout en bas en weekly. Microsoft, en plus, je vous l'ai montré, elle était moins chère en termes de PE dans les Mag 7. Là, vous avez, sur ces 350$, une zone d'entrée intéressante sur Microsoft. Et bon, je vous ai donné toutes les informations dans le tableau, dans la première partie de la vidéo, donc vous pouvez tout reprendre ça tranquillement, à tête reposée. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo spéciale sur l'IA vous a plu. Alors d'après vous, est-ce que les capex en IA représentent un risque systémique pour les Mag 7, le secteur de la tech et donc in fine pour le S&P 500? Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.